C'est le testament de Moshe Rabbeinu. Alors que dans les quatre autres Sfarim, c'est Hachem qui parle par l'organe de Moshe. Dans Sefer Dvarim, c'est un testament, donc c'est ce que Moshe veut dire avant de partir, ce qu'il veut dire au Bnei Israël. Et le texte commence de façon un peu étrange. Commence. Et le Dvarim asher diber Moshe el kol Israël. Be'er Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Bolsouf, Ben Parad, Ben Tophel, Ve'Lavan, Ve'Chatzerot, Ve'Dizahav. Donc voilà ce que les paroles que Moshe Rabbeinu a dites à tout Israël. Be'er Yarden, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas passé le Jourdain, donc de ce côté du Jourdain où il se trouve, ça s'appelle Ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, c'est l'autre côté. Pour les Bnei Israël, c'est le premier côté qu'ils ont rencontré, mais ça s'appelle l'autre côté parce que le vrai côté du Jourdain, c'est celui qui définit le territoire entre le Jourdain et la mer. Bamidbar, il leur a parlé du désert, il leur a parlé Bamidbar, a priori, là ça a l'air d'être des localisations, il est vers Yarden, il est Bamidbar, Barava, dans la plaine. Et Mol Souf, en face de la mer des joncs, en fait, Ben Paran ou Ben Tophel, entre Paran et Tophel, entre Lavan et Hatzerot, et Dizahav, un endroit qui s'appelle Dizahav. C'est a priori Khalasarium, 11 jours à partir du Sinaï. En passant par le Har Seir, le pays de Seir, jusqu'à Kadesh-Barnéa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des 11 jours? Qu'est-ce que ça vient de quoi ça parle ici? On est maintenant 40 ans après la sortie d'Égypte, on n'est pas à 11 jours. Donc ici, je reviendrai sur le premier verset, mais ici Rachid dit que Moshe Rabbeinu leur fait remarquer. Regardez le désastre que vous avez causé. En lachem derech tsara mechorev le Kadesh Barnea ke derech Har Seir afu mealech chadasar yom vatem alachtem oto b'shlosha yamim. Donc c'est d'une étape à l'autre, il y avait chaque fois 11 jours, et vous, tout ce territoire, hein, ici, vous l'avez couvert en 3 jours. Regardez comme Hachem vous avait favorisé, comme Hachem vous a aidé. Qu'est-ce que j'ai raté là? Il y avait quelqu'un qui s'est affiché, mais il a disparu.
Non, c'est encore Cannes qui fait son festival
Ah, d'accord.
de Cannes.
Ouais, vous n'avez pas besoin de le dire deux fois, on a compris. Nasu, le 20 Iyar, ils ont quitté Chorev. C'est marqué Vaïbashana, Shenit, Bachodesh, Shenit, Be'esrim, Lachodesh, Esrim, Bachodesh. Et Taftet, Be'sivan, on a envoyé les Meraglim qui sont partis de Kadesh Barnea. Si tu enlèves Shloshim Yom qu'ils ont passé à Kibbout HaTaava, où ils ont mangé pendant un mois, ils ont mangé de la viande, puisqu'ils voulaient de la viande. Et tu enlèves aussi 7 jours qu'ils ont passé à Hatzeroth à attendre que Myriam sorte de son état de Tzarat, de Metzora. Nimtza, Beshlosha Yamim, Alchou kolotoa derer. Donc tout ce chemin, ils l'ont couvert en 3 jours. Mais kolka haïta shchina, la betet bishvilchem, le maher biatchem la haaretz. La présence divine était tellement active pour vous faire arriver le plus vite possible. Et bishvil shekilkaltem, et parce que vous avez tout abîmé. Alors, Asavetrem, Slivot Ar Seir Arbaim Shana. Alors, on vous a fait tourner autour de Ar Seir pendant 40 ans. Alors, c'est quoi cette liste d'endroits? Justement, il s'avère que ce ne sont pas des endroits. Ce ne sont pas des noms de lieux. Parce que, par exemple, comme dit Rashi, sur Bamidbar, ils n'étaient pas dans le désert. À ce moment-là, ils sont Be'avot Moav. Alors pourquoi c'est écrit Bamidbar? Bishvil, Mashei, Ich'isu Bamidbar. C'est parce que, quand ils étaient dans le désert, ils ont mis Hachem en colère. Ils ont dit, mi iten mutenu bamid. On aurait préféré mourir en Égypte en mangeant bien, etc. Et l'autre aussi, Arava, c'est Bishvil Arava. Arava, c'est la faute de Baal Peor. En Chittim, la grande faute des Bnei Israël. Et donc tous ces lieux-là, enfin tous ces mots-là ne sont pas des noms de lieux. Ils font référence à des fautes. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas voulu leur faire honte. Alors il ne mentionne pas explicitement les fautes. Mais on parle entre deux gens qui se comprennent très bien. Ils comprennent ce dont parle Moshe. Moshé n'a pas voulu le dire expressément. Donc il a fait des références, des renvois, des allusions, etc. Par exemple, quand Moshé parle du veau d'or, alors la faute du veau d'or, elle est en quelque sorte attestée ici dans les paroles de Moshe par le terme d'Izahav. Alors, dit, on peut l'entendre d'ail. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup plus qu'il n'en fallait d'or. Ils ont eu beaucoup trop d'or. Et c'est mon cher Abénou, quand il a voulu, comme toujours, essayer de dire du bien du clan d'Israël, même quand c'était difficile. Alors, mon cher Abinou, c'est permis quelque chose d'assez énorme. Il a dit à Hachem, il avait déjà dit ça, il avait déjà dit ça dans le Sefer Shemot. Il a dit à Hachem, en vérité, les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, mais c'est de ta faute. Tu leur as donné trop d'or. Et là, le Chazal ramène, Rachid ramène, le fameux Machal. Le fameux Machal, c'est le Machal d'un père qui est roi. Et il donne à son fils de la nourriture, il lui donne à manger, à boire. Il le gâte de toutes les manières possibles. Puis ensuite, il lui met autour du cou une pochette pleine d'argent. Et puis il le dépose par hélicoptère, le dépose dans une rue. Dans la rue des prostituées. Alors, mon cher Benoît, qu'est-ce qu'un enfant comme ça peut faire? Tu le balances là-bas? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et donc, d'une certaine manière, tu ne peux pas en vouloir au Bnei Israël d'avoir fait le veau d'or. Cette richesse, ça les a amenés directement au veau d'or. Bon, mais mon cher Abénou, il énonce ça dans une liste de remontrances. C'est-à-dire, il est en train de reprocher au Bnei Israël les fautes. C'est un argument qu'il fait valoir pour défendre les Bnei Israël devant Hachem. Mais néanmoins, il y a une faute des Bnei Israël. Mais quelle est la faute? La faute, elle est en cela que c'est vrai que les Bnei Israël étaient placés dans une situation difficile avec toute cette richesse, en quelque sorte. Mais bien entendu, ça c'est un principe fondamental, ils n'ont pas été placés dans une situation dans laquelle ils ne pouvaient pas faire autre chose que fauter. C'est une situation qui facilitait la faute, mais il était possible de résister, parce que sinon, sinon c'est pas une épreuve. Sinon, comme Hachem, elle a qu'à simplement les tuer tout de suite. Si de toute manière il les met dans une situation où ils peuvent pas s'en sortir, il faut les tuer tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a des situations qui sont très difficiles, extrêmement difficiles, plus difficiles que d'autres, etc. Mais il y a toujours la possibilité, c'est la béchira de l'homme, il y a toujours la possibilité de réussir le test, de réussir l'épreuve. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, les Bnei Israël avaient la possibilité de ne pas faire le veau d'or. Et là, il y a donc un message, puisque c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas simplement qu'il leur fait des remontrances. Ça ne servirait pas à grand-chose. Comme toujours, les remontrances, de même que les sanctions, etc., c'est toujours quelque chose qui est une leçon profitable. C'est une leçon pour le futur, pour ne pas se recasser la figure. C'est parce que ces épreuves-là sont, d'une certaine manière, des épreuves standards. Elles se sont répétées au cours des générations, d'une manière éventuellement différente à chaque fois, mais on a ici un espèce de une liste, peut-être pas exhaustive, mais une liste des fautes standards. Et donc, on doit apprendre que, et là, la question, elle se pose de la manière suivante. Chacun d'entre nous doit vérifier qu'il ne se met pas lui-même dans une situation d'épreuve où il est pratiquement certain de se casser la figure. On n'a pas le droit de se mettre dans une situation d'une tentation à laquelle c'est vrai que c'est possible de s'en sortir, mais il y a un peu de chance. T'as pas le droit d'entrer dans une situation-là. C'est-à-dire que si quelqu'un faute dans cette situation-là, il est sanctionné pas parce qu'il a fauté. Il est sanctionné parce qu'il s'est mis dans cette situation, en sachant que c'est une situation dans laquelle il a beaucoup, beaucoup de chance de fauter. On ne peut pas compter sur la volonté en se disant, je me mets dans une situation, mais j'aurai la force de résister. Par contre, quand on ne s'est pas mis tout seul dans cette situation, alors c'est là que je dois savoir que, comme on y est, ce n'est pas moi qui m'y suis mis directement, mais donc c'est Hachem qui m'a mis là-dedans, c'est qui Hachem me teste, il me met à l'épreuve, alors je dois savoir que je pourrais résister. Je peux résister. Hachem veut que je prenne conscience. Hachem, il sait bien que je peux résister. Il veut que, ça ne veut pas dire que je vais résister, mais Hachem voudrait que je prenne conscience que j'ai pu résister. Comme l'épreuve qui est posée, qui est donnée à Abraham Avinu, la dixième, la Akedah, Hachem dit, maintenant je sais que tu crains Elohim. Évidemment qu'il le savait avant aussi. Mais enfin, c'est une façon de dire, je sais que tu crains Elohim, c'est-à-dire maintenant, tu vois concrètement que tu crains vraiment Elohim, puisque tu étais prêt à tout me donner. Comme je te l'ai demandé, tu étais prêt à tout me donner. Donc finalement, c'est sur toute la vie, c'est plutôt des situations dans lesquelles il faut vouloir faire ce que la Torah demande. Est-ce que j'arrive à le faire ou pas, c'est déjà un autre problème. Mais au moins, ce qui m'est demandé, c'est de vouloir le faire. À peu près, je ne veux pas dire qu'on n'a pas d'obligation de résultat, mais l'important, c'est ma volonté de le faire. Je veux le faire. Maintenant, il peut y avoir des situations. Parce que l'épreuve n'est pas toujours ce qu'on croit. Si vous voulez, le problème dans une course de haies, alors évidemment, il faut franchir les haies, mais du point de vue des épreuves, l'important, ce n'est pas tellement d'avoir franchi la haie ou pas. L'important, c'est que si je me casse la figure, je me relève. C'est se relever et pas se dire, ben, quoi bon? Faut pas la peine. C'est Shlomo HaMelech qui dit, le tzaddik, il tombe 7 fois, mais il se relève. Les Chazal disent, c'est bien plus que 7. Si vous voulez, c'est clair, un enfant qui, quand les parents veulent empêcher leur enfant qui apprend à marcher, l'empêcher de tomber, il n'apprendra jamais à marcher. Il faut tomber et se relever. Donc, des fois, l'épreuve, c'est pas tellement de franchir. C'est tu vas tomber, mais comment est-ce que tu te relèves? Qu'est-ce que tu fais quand ça n'a pas marché? Et donc, a priori, on doit toujours essayer de se projeter, de se dire, voilà. Maintenant, je me mets dans cette situation-là, mais cette situation, c'est quoi? Quelle est l'épreuve dans cette situation? On ne peut pas se dire, moi, Moi, je ne serais pas affecté par cette situation dans laquelle je me mets, qui est de l'avis de tout le monde, situation difficile. Il y a aussi des situations qui sont peut-être pas difficiles pour quelqu'un d'autre, mais qui pour moi, avec ma culture, avec mes habitudes familiales, etc., mes désirs, mes faiblesses, etc., pour moi, c'est difficile. Donc, j'ai pas le droit d'y aller. C'est pas parce que l'autre y va et que lui réussit que moi j'ai le droit d'y aller. Parce que lui, cette épreuve-là, pour lui, c'est facile. C'était pas vraiment son épreuve fondamentale. C'est pour moi peut-être une épreuve fondamentale. Lui, il aura autre chose, en fait. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire que quand on choisit un ami, on choisit un métier, une occupation, bon, une communauté, une école pour les enfants, etc. Il faut savoir quels sont les principes que je veux appliquer et regarder si la situation dans laquelle je me mets correspond à mes principes. Et si on anticipe un peu les situations, on peut beaucoup gagner. On peut éviter beaucoup de maux de tête et de problèmes si on réfléchit avant. Comme vous savez, il y a eu un moment où les Romains nous ont interdit d'étudier la Torah, donc même de lire la Torah. Désolé, j'ai oublié mon verre là-bas. Hein? Et on ne pouvait pas lire la Torah le Shabbat. Alors les Chachamim ont décidé qu'on allait lire à la place de la Torah qu'on ne pouvait pas lire. On allait lire un texte des prophètes. Et on va choisir un texte des prophètes qui traite d'un problème ou du problème principal qui aurait été le sujet de la lecture de la Torah. Et quand on a eu la possibilité de reprendre la lecture de la Torah, on a gardé cette habitude de lire un texte des prophètes, c'est ce qu'on appelle la haftara, le maftir. Et donc, il y a dans le maftir, dans le choix que Chazal ont fait des textes des prophètes, c'est une indication de ce qu'ils pensaient être un des enseignements de la paracha en question. La paracha qu'on aurait lu ce Shabbat, le Shabbat en question. Et donc, si on regarde la Haftara de ce parchat de Dvarim, c'est dans le premier chapitre du Navi Yeshaya. Et dans ce premier chapitre, un des premiers versets, le troisième verset, dit. C'est Yeshaya qui se plaint, qui se lamente en réalité. C'est au titre de cette lamentation qui est une des choses qui sont dites dans le Parshat Dvarim, qu'on a choisi ce texte-là. Et il dit, Ami lo itbonad, mon peuple n'a pas réfléchi. D'avoir commencé par sa prophétie, par cet énoncé-là, mon peuple n'a pas réfléchi. Ça montre, c'est presque comme s'il avait mis ce verset-là en exergue. Et du coup, par contagion, on pourrait dire, c'est comme si ce verset-là était en exergue du testament de Moshe Rabbeinu. Ça montre combien la réflexion et de bonne note est fondamentale. Et donc, c'est juste une remarque pour dire de quoi il s'agit vraiment quand on parle de cette réflexion et pourquoi est-ce que c'est si important. Le Ramchal, Moshe Chaim Lutzato, il dévoile le secret derrière cette notion de bonne note de réflexion. Il dit, la Torah est comme un feu. Et chaque mot de la Torah est en fait une braise. Si on laisse cette braise sans la travailler, elle va décliner. Et finalement, elle va s'éteindre. Mais au mieux, elle va faire un petit peu de rouge, quoi. Par contre, si maintenant on va souffler sur ces braises, c'est-à-dire on va travailler la Torah, les mots de la Torah, on va travailler pour les comprendre. Travailler, d'abord, ça veut dire travailler dans l'image, c'est travailler même les mots d'abord. On travaille les mots. Nous, on a l'habitude de travailler surtout les phrases et peut-être les paragraphes. Mais le vrai travail commence au niveau des mots. Les kabbalistes, ils travaillent même au niveau des lettres. Mais bon, si on travaille au niveau des mots, la Torah, elle n'a pas choisi les mots au hasard. On aurait pu prendre n'importe quel autre mot qui veut dire à peu près la même chose. C'est pas ça du tout. Le feu en question, ben, il ne peut pas prendre si on ne souffle pas sur les braises. Dans Pirkei Avot, on voit très bien que, comme Chazal disent, quand quelqu'un souffle, c'est le souffle, il va le chercher en lui. Donc, quelque part, comment est-ce que je fais pour rendre ces mots, pour que ça donne des flammes, ça dépend de mon souffle. Ça dépend de ce que je suis capable de produire. Donc ça dépend de moi. Ça dépend de moi. C'est pas un geste simplement. C'est pas frotter une allumette pour le faire partir. C'est déjà un geste, c'est aussi important. Mais là, ce qu'on y met, c'est le souffle de chacun. Chacun souffle avec ce qu'il est, avec son intériorité. Quelque part, ça veut dire que le feu qu'on va produire, que chacun peut produire avec son souffle, donc le développement de la Torah qu'il peut provoquer, qui peut engendrer, c'est quelque chose, une certaine manière qu'il n'y a que lui qui peut engendrer ce développement-là. Parce que ce souffle, c'est le sien, c'est pas celui du voisin. Chacun a un souffle qui lui vient de son intériorité, donc qui est quelque chose de propre, quelque chose qui m'appartient en propre. Donc, j'y mets du mien quand je souffle. Donc, on comprend aussi, en passant, qu'il n'y a absolument aucune raison que tout le monde lise la Torah de la même manière. Puisque le feu, la Torah, c'est le feu, et ce feu-là, il vient du souffle, il vient de la façon dont on va travailler les mots. Alors bon, on a déjà vu plusieurs fois, les mots dans la Torah, tels qu'ils sont dans le Sefer Torah, il faut mettre des voyelles. Il n'y a pas de voyelles dans le Sefer Torah. Et on peut voyaliser les choses de plusieurs manières. Et ça peut donner des sens complètement différents. Des formes verbales qui sont différentes, des temps différents, des mots différents. Et donc, dans le développement de la Torah, on a besoin du souffle de tout le monde. Bien sûr, dans la halakha, il faudra bien décider. On ne peut pas faire en sorte que chacun fasse exactement ce qu'il veut, n'importe comment. D'accord? On avait une certaine, jusqu'au Shulchan Aruch, on avait l'habitude que dans cette ville-là, on fait comme ça, et ailleurs, on fait autrement. À Pumbedita, on ne faisait pas la même chose qu'à Soura. À Paris, on ne faisait pas la même chose qu'à Orléans. Personne ne faisait Yom Kippour au mois de Kislev. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, mais y compris dans les choses aussi importantes que Shabbat, etc. Celui-là, il pensait à ce point-là, cette façon de faire, elle est permise, cette façon de l'autre, il pensait non. Rashi et Rabbeinu Tam n'avaient pas les mêmes tfilines. Bien sûr, on mettait les mêmes parchiotes dans les tfilines, mais l'ordre dans lequel ils les mettaient dans la tfila Shel Rosh n'était pas le même. Je ne sais pas si Rabbeinu Tam mettait les tfilines de son grand-père, ou si lui, il mettait les tfilines différents. Il dit autre chose que Rashi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent deux paires de tfilines. Une paire comme Rashi, ou l'ordre des parchiotes est comme Rashi, une paire dans laquelle l'ordre des parchiotes, dans la Tfilah Shel Rosh, est comme Rabbeinu Tam. Mais est-ce que Rabbeinu Tam lui-même, il faisait comme Rabbeinu Tam ou il faisait comme son grand-père? On sait rien, je sais. Peut-être qu'il y a des textes qui disent ce que faisait Rabbeinu Tam, j'en sais rien. Mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire, il peut très bien dire, moi j'arrive. Mais bon, par respect pour mon grand-père, peut-être qu'il faisait comme ça du vivant de son grand-père, disons, et que, si je sais pas combien de temps il a vécu, s'ils ont vécu ensemble, et que quand le grand-père était plus là, bah, il faisait autrement. Il y a des choses qu'on fait. En Torah, il n'y a pas obligatoirement, il y a quelque chose qui est très connu. Le Rav Dessler, il était marié avec une petite fille de, je crois, de Primeiser ou de Kelm. Et cette fille, elle a hérité du kos, du verre de Shabbat, du gobelet de Shabbat. Et ce gobelet de Shabbat, quand Rav Dessler est arrivé à Bnei Brak, ce gobelet-là, il n'avait pas le shiur Chazonish. Et Rav Dessler voulait changer. On est à Bnei Brak, c'est la ville du Chazonish, je vais prendre le shiur Chazonish. Et sa femme a dit, on ne peut pas. Si le kos, il était bon pour Primeiser Grudzinski, il est bon pour toi aussi. Et Rav Dessler, il a fait kiddush, arba, enfin tout, avec les shiurim qui n'étaient pas les shiurim de Chazonish, durant toute la vie de Sarah Betson, de sa femme. Et sa femme, Nifta, la Avdala qu'il a fait, je crois. Moi qui a fait faire, etc. C'était avec un nouveau chiot, avec un gosse, un gosse avec un chiot de phase de niche. Mais jusque-là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que le rapporteur Brzezinski, il s'est pas acquitté des Arbakossot à Pessah, Kiddush, etc. À cette époque-là, on était posé comme après Noé, pas comme le Razonich. Il y a encore des gens aujourd'hui qui continuent d'être posé comme ce posé-là, c'est tout. C'est pas le chiot de Razonich. Alors, à Bnei Brak, par respect pour le Razonich, il y a des gens qui, presque tout le monde pratique le Razonich, je sais pas, peut-être pas les Hasidim, je sais pas. Mais à Yerushalayim, il y a plein de gens qui font pas comme le Razonich dans d'autres domaines non plus, dans la Shemitah, c'est pas que c'est voilà, on vit à un moment avec les gdolim qu'on a. Donc on comprend bien que, en tout cas dans le développement de la Torah, il y a des façons de regarder les choses différemment, qui viennent de ce que c'est moi qui regarde. C'est moi qui. On parle de quelqu'un qui travaille sérieusement. Pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Quelqu'un qui travaille sérieusement et qui, du plus profond de lui-même, avec. En regardant à gauche, à droite, qui est-ce qui a écrit, qui est-ce qui parle, etc., en étudiant les choses à fond, il arrive à la conclusion, voilà, moi je pense qu'il faut faire comme ça. Ok, alors il peut faire comme ça. Tu fais comme ça? Oui, je fais comme le Rajbo. Ouais, le Maïmonide, le Rambam dit autrement. Ok, moi je fais comme le Rajbo. Et la Torah, elle a besoin de cette diversité. C'est la richesse de la Torah. Alors, le Ramchal, il dit que le monde a été créé spécifiquement de telle sorte que nous soyons libres. Voilà, on a un libre arbitre. Si les choses étaient parfaitement claires, au premier regard, qu'on comprenne tout de suite la vérité la plus absolue, personne ne faudrait. Le Yetzer Hara, il n'aurait aucune possibilité de nous dominer, de nous diriger d'une quelconque manière. Il n'a pas de manière de nous diriger. On verrait très clairement que la Torah est un, que les mitzvot c'est un trésor, et que faire le contraire, c'est un désastre. Akadosh Baruch Hu, pour équilibrer les choses en quelque sorte, il a fait en sorte que le monde où la connaissance vraie est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que toute braise a un potentiel, mais on est capable de pas utiliser ce potentiel, de pas le développer. C'est un choix. J'ai le choix, est-ce que je veux mettre le feu ou pas? C'est comme ça qu'on comprend la nécessité absolue de la réflexion. Pourquoi? Parce que il faut réfléchir au pourquoi de la création, dans la mesure où on comprend quoi que ce soit. C'est pas qu'on comprend vraiment le fond du problème. Mais ce que nous pouvons comprendre, et donc la réflexion, ça va être le moteur qui va nous permettre d'avancer, de lutter contre le Yetzer Hara. Plus on aura de clarté dans notre compréhension du monde, moins le Yetzer Hara aura de possibilités. Donc la réflexion, c'est la capacité de se concentrer sur une idée et de réfléchir aussi objectivement que possible à un sujet avec l'intention d'intégrer cette connaissance dans ma vie. C'est-à-dire de prendre les idées de Torah, les idées du Moussar, par exemple, des choses qu'on connaît, mais on les connaît comme, justement, comme une braise. Mais il n'y a pas de feu. Et donc, essayer de mettre le feu là. C'est aussi un outil que quelqu'un, enfin chacun en fait, doit utiliser pour se connaître soi-même, pour comprendre pourquoi est-ce que j'agis de telle manière, de telle sorte que, en réfléchissant, on peut éventuellement se changer pour le mieux. Donc ça, c'est la nécessité et à la limite, si j'ai bien compris, tout le Sefer Dvarim, tout le testament de Moshe Rabbeinu, c'est de nous obliger à réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire ne pas laisser ses braises sans avoir la peine de souffler dessus. Ne pas gâcher nos qualités, notre potentiel. Il y a quelque chose qui d'important toujours dans deux psukim plus loin. Dans le passouk Vav, dans le passouk 6, le texte dit Hachem Elokeinu, Iber Eleinu les morts, etc. Donc ça veut dire Hachem, notre Dieu, nous a parlé au Sinaï, les morts, pour que nous répercutions ce qu'il nous a dit que. On l'enseigne à nos enfants, etc. Dans Adret Eliyahu, c'est un commentaire du Gaon de Vilna sur la Torah, sur ce passouk, il écrit Velachen. Nenshu afilu nochrim, pour cette raison-là, parce qu'Hachem nous a parlé au Sinaï, même les goïms ont été sanctionnés, bipne shelo shamru et haTorah paaretz, parce qu'ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas pratiqué la Torah en Eretz Israël. Comme Moshe Neema, lo yadu Et Mishpat Elokei Haaretz, ils ne connaissaient pas, donc ils n'ont pas pratiqué les lois du Dieu du pays. Chez Israël, Metsuvé Alkola Torah, Chutzlaaretz. Les Bnei Israël, ils sont astreints à respecter la Torah en Eretz Israël, mais aussi en dehors d'Eretz Israël. Et en Eretz Israël, Metsuvé Afilou Nochri. Même un goy est aussi astreint à respecter les mitzvot. Mais la reine, c'est pourquoi, dit-il, Nenshu Akutim, les Coutéens ont été sanctionnés, Sheloyadu Mishpat Eloke Aaretz, qui n'ont pas respecté les lois du Dieu du pays. Mais voir Midvarav, donc voilà, ça c'est la citation du Gaon. On voit dans ce texte une drôle de chose. Le Gaon est en train de dire que les goyim en Eretz Israël sont astreints aux mitzvot. Ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que si le Gaon parle, quand il parle des mitzvot, il veut dire les mitzvot, les sept mitzvot des Bnei Noach. Alors, les Bnei Noach, ils sont astreints aux sept mitzvot en Chutz Laretz aussi. Donc, ça ne peut pas parler de ça. Nulle part, on voit qu'il y aurait pour les goyim une différence entre Eretz Israël et Chutz Laretz par rapport aux sept mitzvot auxquels ils sont astreints. Et si le Gaon parle de toutes les, des, enfin des 613, quoi, des autres, de toutes les mitzvot, que nous, juifs, nous devons respecter en Eretz Israël, mais aussi en dehors d'Eretz Israël, et qu'il est en train de nous dire que les goyim aussi en Eretz Israël, ils doivent respecter la Torah. Alors, c'est difficile, hein, parce que dire que les goyim sont astreints aux mitzvot en Eretz Israël, on comprend rien. Et en plus, c'est écrit explicitement dans le Rambam, dans une Hilchot Melachim, c'est écrit que Akum she'asak batora chayav mita. Un goy qui s'occupe de Torah, donc qui fait les mitzvot, s'occupe de Torah, il est passible de mort. Et Rambam précise, velo yasok ela b'sheva mitzvot shelaen bilvad. Il n'a pas le droit de s'occuper de mitzvot en dehors des sept mitzvot qui leur sont imposé et uniquement de celle-là. Il peut pas, il n'a pas le droit. Qu'est-ce que le gars me raconte là? Alors, il faut expliquer le gamin comme ça. Le Rambam, là, dans ce chapitre où, dont je viens de citer la partie, la halakha d'après, il dit, il faut bien écouter, Ben Noach, Sheratza la asot mitzvah, Mishar mitzvot à Torah. Un goy, un Ben Noach. Ben Noach, c'est n'importe quel goy. Qui veut faire une mitzvah, une des 613 mitzvot, mais il veut la faire que dès le Kabel Sachar. Il veut la faire pour, il sait qu'il y a une certaine récompense à faire des mitzvot. La récompense, elle est pour celui qui n'est pas astreint à les faire, elle est moindre que pour celui qui est astreint à les faire, les mitzvot. Mais il y a une récompense, y compris pour les gens qui ne sont pas astreints à faire les mitzvot. Alors le Rambam dit, ce goy-là qui a envie de faire une mitzvah, parce que il veut le salaire, il veut la récompense qu'il y a d'avoir fait cette mitzvah. C'est-à-dire qu'il sait que une mitzvah, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tellement bon que même si tu le fais pas du tout pour, parce que tu l'as reçu comme une obligation, tu le fais pour la récompense, ça a une valeur. Ça n'a pas la même valeur, mais ça a une valeur. Comme si on disait, c'est un acte qui est fait Par exemple, comme quelqu'un qui va donner de la tzedaka, en vérité, il fait ça parce que ça fait bien d'être dans des comités de philanthropie, etc. C'est bon pour l'image de sa boîte. D'accord? Alors, il va le faire. Donc, il veut la récompense, il veut le salaire. S'il fait pour ça des mitzvot, monin oto, la sot ki il chata. On ne l'empêche pas de faire la mitzvah exactement comme elle a été prescrite. C'est-à-dire, Raman continue. Nathan tzedaka, mekablin mimenu. S'il donne de la tzedaka, on accepte la tzedaka. On voit ici qu'un ben noach, il a le droit de faire une mitzvah s'il fait cette mitzvah pour recevoir le salaire, pour recevoir la récompense. Et le Rambam le dit expressément dans son Pirush HaMishnayot sur Masechet Truma, Mot plutôt, il dit Anochrim, les goyim, Afalpi Enan Chayavin beMitzvot, bien qu'il ne soit pas astreint à faire les mitzvot, je veux dire, on parle des 613, Im Asu Mehem, Shum davar, s'ils ont fait une ou plusieurs de ces mitzvot, yesh lahem ktsat sachar, ils ont un peu de salaire. Vezehu min haikar shelanu, vekivan shehem mishtatfim imanu, chez nous c'est fondamental, et comme eux, ils s'associent avec nous dans le beschar maaseihem, be mitzvot, Kayamin kasher tiré. Donc c'est bon, on va le laisser faire. Et il y a un commentaire du Rambam, du Radbaz, qui dit Ben Noach sheratza la'asot mitzvah, donc ça c'est il commente ça c'est une phrase du Rambam. Ve'im ratza la'asot be'omro, il veut le faire en disant maintenant s'il dit shenitztaveh aleha, s'il fait la mitzvah en disant, cette mitzvah, je l'ai reçue, je dois la faire, en manichinoto, la sota. On ne le laisse pas faire. Seulement, s'il l'a fait pour, il le fait pour la récompense, là, on va le laisser faire. Il faut qu'il soit expressément pas metsuvé. Il n'a pas été ordonné de faire la mitzvah. S'il se réfère à un ordre qu'il aurait reçu, interdit. Et le Radbaz dit, et c'est pour ça que le Rambam, il a fait très attention, il a écrit, Kedel le Kabel, Sachar. Il le fait pour avoir un salaire. On voit très bien, il ne le fait pas parce qu'il y est obligé. S'il le faisait parce qu'il se sent obligé de le faire, on ne laisse pas faire. Donc on voit que imagoï osé betorat metsuvé veosé. Si un goï fait les mitzvot parce qu'il est metsuvé, parce qu'il a reçu l'ordre de les faire, on ne laisse pas faire. Maintenant, s'il le fait pas comme metsuvé veosé, mais pour le kabel sacha, il a le droit de le faire. Et c'est d'ailleurs très clair dans le Rambam là-bas. Klalo shel davar, la règle générale, dit Maïmonide, Ein manichin otan le chadesh dat. On ne les laisse pas inventer une nouvelle religion. S'il dit j'ai reçu des ordres, c'est qu'il est en train d'inventer une nouvelle religion. Ve'la'asot mitzvot la'atzman midatan. Et il va dire, voilà, on a reçu, même si c'était pas une des mitzvot, c'est s'il va dire, quelqu'un va dire que il a une mitzvah de, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'il a une obligation de lire toutes les années la recherche de Proust, d'accord? C'est ça sa mitzvah. On ne laisse pas faire. Il a inventé un nouveau truc au titre d'une mitzvah. On ne laisse pas faire. Donc on voit que ce qui est interdit, c'est quand il en fait une religion. Quand il y fait quelque chose avec des connotations surnaturelles. Et d'après ça, on peut comprendre ce qu'a dit le Gaon. C'est vrai que les goïms n'ont pas le droit de s'occuper de Torah et de mitzvot, parce que ça a été donné au Bnei Israël et pas aux goïms. Mais en Eretz Israël, c'est une image que Chazal utilise, c'est le palais du roi. En Eretz Israël, on est dans le palais du roi. Et à ce titre-là, Dinhu sheitraivu agoyim bemitzvot mitzad chukei haaretz. Dans le palais, tu es astreint aux lois du pays. Et c'est en tant que loi du pays que tu fais les mitzvot. De même que dans tout pays, il y a des lois, il y a des minagim, il y a des habitudes, des coutumes, des lois, etc., qui proviennent du pouvoir. C'est le pouvoir qui a décidé que si tu veux traverser la place ici, tu dois travailler là, traverser ici, parce que là-bas, ici, il y a un passage protégé, tu n'as pas le droit de traverser ailleurs. Ici aussi, un goy chez Dar Kan Baharetz, un goy qui habite en Eretz Israël, il doit adopter une façon de se conduire différente de celle qu'il peut avoir en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, il a astreint aux 7 mitzvot de Bnei Noach. Astreint. Maintenant, en dehors d'Eretz Israël, s'il veut faire une mitzvah parce qu'il pense que ça va lui rapporter de la réputation, du plaisir, n'importe quoi, c'est permis. Mais en Eretz Israël, ils sont astreints parce qu'ils sont dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, tu es obligé de te concilier. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Les mitzvot en Eretz Israël, hen, chukei haaretz. Les mitzvot sont les lois du pays. Pas seulement que c'est les lois d'Hachem, mais c'est devenu les lois du pays d'Eretz Israël. Toute personne qui y habite doit se plier à ces lois-là. Ça veut dire aussi que même si quelqu'un dit, moi je ne veux pas respecter la Torah en tant que telle, je ne veux pas respecter les mitzvot parce que la Torah, elle n'a pas été donnée au Sinaï, c'est ce que tu veux, mais maintenant les lois d'Eretz Israël, ce sont les mitzvot, en tant que loi d'Eretz Israël. וכיוון שבארץ ישראל מחויבים בני נוח במצוות מצד שהם חוקי הארץ, puisque les goyim, ils sont astreints parce que c'est les lois du pays, automatiquement, ça ne s'appelle pas qu'il le fait pour inventer une nouvelle religion, etc. Et donc, il n'est pas interdit de faire les mitzvot, puisqu'il ne les fait pas du tout par religiosité, il les fait par une obligation qui est faite à tous les gens qui habitent dans ce pays-là. Donc ils ont le droit et même en l'occurrence l'obligation. Et si on va un peu plus loin dans cette idée, donc ils sont obligés de le faire, comme dit le Gaon, dans le Torah de Kohanim sur Bechukotai, il y a un passage qui dit, Vashimoti ani et haaretz. Hachem dit, c'est dans les klalot de Bechukotai, Hachem dit, je vais rendre complètement désert, il n'y aura plus rien du tout, ce pays d'Eretz Israël. Alors, le Torah de Konem, il dit là-bas, hein, Zumida Tova. C'est quelque chose de bien que Hachem fait pour les Bnei Israël. Pourquoi? Shelo Israël, Omrim, que les Bnei Israël ne disent pas, nous, on est exilés de la terre, on est en exil. Et maintenant, nos ennemis, ils viennent et ils prennent du plaisir avec cette terre. Ils profitent de la terre. C'est marqué. Oivechem, Ayoshvim ba. Af Ayavim Abaim, Achrechen, Loïmsu Alea Nachatruach. Les goïms ne pourront pas trouver de plaisir. Cette terre, elle ne va rien leur donner. Elle va être désertique. Et effectivement, pendant toutes ces années, la terre était désertique. La pachtoute du Torah de Kohanim, c'est que Hachem promet que quand les goïms vont arriver sur la terre d'Israël, terre qui est vidée de ses habitants puisqu'ils sont en exil, loïmsu kan manoach, ils vont pas trouver de plaisir. Lo yuchlu le'enot me'eretz Israël, ils pourront pas profiter d'Eretz Israël. Ça donnera rien. Ça, c'est la page toute. On lit le Torah de Kohanim sans connaître l'enseignement qu'on vient de voir du Gaon. Mais d'après le Gaon, d'après cela, alors on peut expliquer un petit peu différemment le Torah de Kohanim. On peut dire que puisque Eretz Israël, c'est le palais du roi, alors les goïms, ils doivent se comporter dans le palais du roi en respectant les 613 mitzvot. C'est ce qu'on vient de voir. Parce que c'est ça les lois du pays. Et puisqu'ils ne le font pas, alors eux aussi, faut parler de choses, eux aussi, en fait, ils peuvent pas, la terre ne les supporte pas. Comme elle ne nous a pas supportés quand nous avons cessé de pratiquer les lois de la Torah. Et par conséquent, ils peuvent pas, la terre va pas les accepter, ne permettra pas de profiter, elle va pas les aimer, elle va les chasser aussi en créant des conditions difficiles, des conditions de vie difficiles. Ça, c'est ce que l'enseignement du Gaon qui est assez révolutionnaire, quoi. On ne s'attend pas à rencontrer ça. Mais bon, je pense que c'est une bonne explication. Dans le passouk, c'est marqué. Dans le passouk Lamed Zayin. Gambi tanaf Hashem biglalchem. Hashem s'est mis aussi en colère contre moi à cause de vous. Les mots Gamata lo tavosham. Hashem a dit, toi non plus, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Personne de ces ou le peuple là qui a suivi les explorateurs. Toi, tu n'as pas suivi les explorateurs, mais toi non plus, tu n'entendras pas. Tu n'y entendras pas. Tu n'y entreras pas. Alors, juste comme mémoire, quand Hachem a parlé pour la première fois avec Moshe Rabbeinu, il a parlé au moment ce qu'on appelle le buisson ardent. À ce moment-là, Hachem a dit à Moshe, tu vas aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, etc. Et Moshe a dit non. Moshe a refusé, il a résisté pendant une semaine, il a dit non. Plusieurs raisons. D'une part, il ne voulait pas marcher sur le plate-bande de son frère, son grand frère. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu, lui, il voulait pas que les Bnei Israël sortent d'Égypte maintenant. Vous vous souvenez, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu me dis d'aller parler aux Bnei Israël, mais ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je leur réponds? Alors Hachem lui a dit, je sais très bien que c'est pas ça ton problème, c'est que toi tu veux connaître mon nom. Alors, mon nom c'est Eke Asher Eke. Je serai qui je serai. Et le pshat, il y a beaucoup de pshatim là-dessus, mais un pshat, le premier pshat que Moshé a compris là-bas, c'est dis-leur que je serai avec eux dans les exils ultérieurs comme je suis avec eux dans cet exil. Alors, Moshé l'a dit, je ne vais pas vendre ça. C'est-à-dire, Rabotai, super, je vous annonce. On va sortir d'Égypte, mais je vous rassure tout de suite, il y aura encore d'autres exils. Mon cher Rabbeinu voulait qu'Hachem donne la force au Bnei Israël de tenir jusqu'aux 400 ans. On est à 190. Ouais. On est à 210, pardon. Il faut 190 encore. Alors, mon cher dit, au lieu de faire un miracle, tu voulais sortir là prématurément, donne-leur la force de résister. Qu'on arrive aux 400, et après les 400, il n'y a plus d'exil ultérieur. Et Hachem n'a pas été d'accord. Mais Hachem lui a dit, parce que tu m'as pas obéi tout de suite, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Et puis après, parce que tu as parlé, que tu as dit que tu ne pouvais pas parler, etc., alors tu ne seras pas Kohen Gadol, ce qu'il aurait dû être. Tu seras Melech, mais pas Kohen Gadol, et ton frère, Achicha à Lévi, qui n'aurait dû n'être que le Lévi, et toi le Kohen Gadol, c'est lui qui va devenir Kohen Gadol. Donc, Moshe Rabbeinu, dès le départ, il sait qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Hachem lui dit, dans l'histoire du rocher, il dit, tu n'entreras pas en Eretz Israël, c'est... C'est pas la conséquence du rocher, c'était déjà complètement plié au départ. Comprendre que Moshe Rabbeinu a compris que Hachem n'a pas arrêté de pardonner au Bnei Israël, il a pensé que lui aussi il le pardonnera. Et la répétition veut dire non, je te pardonne pas. Et jusqu'à la fin, il a pensé qu'il pourrait obtenir le pardon, il savait comment il fallait prier pour l'obtenir, mais Hachem lui a dit, cesse de prier, c'est pas bon pour les Bnei Israël. Donc, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer, et le passouk ici dit, toi aussi, quelque part, le aussi veut dire, il dit, moi aussi, à cause de vous. Donc la question qui vient, c'est en quoi est-ce que la sanction de Moshe, ne pas entrer en Eretz Israël, a à voir avec la faute des Meraglim? Il n'a rien à voir avec ça. Pourquoi c'est Gambi, contre moi aussi, non seulement contre vous parce que à cause des Meraglim, mais contre moi aussi. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il a dit Biglalchem? À cause de vous, je n'entrerai pas en Eretz Israël. La faute, en tout cas la dernière décision, elle est parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Ça n'a rien à voir avec eux. Ici, c'est un. Rapporte un enseignement de David Soloveitchik, fils de Bruskerov, qui écrit que j'ai entendu expliquer les choses de la manière suivante. Dans la parasha de Kitissa, la parasha du Vaudor, c'est écrit: Vaïdaber Hashem el Moshe, Lech ale mizeh, ata ve'aham, asher elitam eretz Mitzrayim, el haaretz asher nishbati l'Abraham, l'Yitzhak ou l'Yaakov. Donc Hachem lui a dit: tu vas, sors de là, monte avec le peuple. Donc on voit que il y a une promesse qui a été faite à mon cher Rabbeinu, qu'il allait entrer en Eretz Israël. Cela dit, tu vas entrer avec le peuple qui vont entrer en Eretz Israël. Alors, comment est-ce que cette promesse d'Hachem peut être annulée? Mais en fait, l'explication c'était que il allait entrer en Eretz Israël. Quand eux entreront, toi aussi tu entreras. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont pas entrés. Ils sont morts avec les Meraglim. Toute la génération qui est sortie d'Égypte à l'âge adulte, 20 ans, ils sont tous morts. Sauf Caleb et Joshua. Tout le monde sont morts. Et donc la promesse qui a été faite à Moshe, c'est qu'il allait y entrer avec eux. Avec ces gens-là que tu as fait sortir d'Égypte, tu vas entrer. Mais puisque à cause des Meraglim, eux n'entrent pas, alors peut-être que la promesse ne concerne pas Moshe non plus. Puisque lui, il allait entrer avec eux. Veut dire que à cause de la faute des sont pas entrés, et eux n'entrant pas, lui non plus n'est pas entré. Donc quand il dit Vegambi Tanaf Hashem Biglalchem, Hashem s'est mis en colère contre moi à cause de vous aussi, c'est parce que c'est dans la faute des Meraglim et la sanction qui a suivi. C'est là que se trouve la non-entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. C'est-à-dire que la promesse, elle n'existait plus, puisque la promesse, elle était, vous allez entrer ensemble, toi et tout le peuple que tu as sorti d'Égypte. Bon, c'est un peu, il faut travailler un peu pour accepter cette lecture, mais bon, c'est une lecture. Sinon, c'est un peu compliqué de dire pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi, c'est à cause de vous. La vérité, moi j'avais pensé qu'en vérité, c'est pas du tout à cause des Meraglim, mais c'est à cause du fait que les Bnei Israël ont tellement fait de pression au moment de l'absence d'eau, qu'il voulait absolument avoir à boire, etc. Et du coup, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère à cause d'eux, et dans la colère, il a frappé au lieu de parler. C'est-à-dire qu'il s'est trompé de rocher, etc. Donc, c'est à cause de vous, parce que vous avez créé cette situation-là où j'ai pu me mettre en colère. C'est à cause de vous que je me suis mis en colère. Et c'est cette colère-là qui a entraîné le fait que Hachem m'a dit, tu n'entreras pas. Ah, il y a un problème, il y a une promesse. Bon, la promesse, on peut dire, la promesse, elle était que tu vas entrer, tu devais entrer, tu n'entreras pas de ton vivant, quoi. Tu vas entrer avec eux, on peut dire, au moment de Triatametim, tu rentreras avec eux. On peut se dire comme ça aussi. On a parlé de la Haftara, toujours cette Haftara du Navi Yeshaya. On a parlé du troisième passouk, le neuvième passouk. Il dit, Loulé Hachem Tzvakot, otir lanu sarid, kimat kisdom haïnu la mora diminu. Si ce n'était que Hachem Tzvakot, et nous est laissé en reste, c'est-à-dire il nous a laissé en vie. En vérité, on ne le méritait pas. Parce qu'en fait, on était pratiquement comme les gens de Sodome et ceux d'Amora. Le Malbim, il dit, Loulé chasdé Hachem, Shirshir lanu sherit. Il traduit, si ce n'était le chesed, la générosité d'Hachem, qui a laissé un reste d'Israël, quoi. Il y a des juifs qui ont survécu, quoi. On aurait dû être traité comme Amora, comme Gomorre. C'est-à-dire, on aurait dû être détruit complètement, grâce au Shalom. Pourquoi? Parce que dans nos actions, on ressemblait à Sodome. C'est écrit dans Parshat Nitzavim. C'est marqué Gafrit Vamelach, Srefa Kolartsa. Il y a du soufre, du sel. Tout le pays a été complètement brûlé. Toute la région de Sodome, on parle toujours de Sodome et Amora, mais il y avait cinq villes, en fait. Et c'est un endroit où on n'aura plus le droit de semer, rien ne poussera, même, il y aura même pas de, de gazon, il y aura même pas d'herbe. Comme ça s'est passé pour Sodome et Amora. Adma, Outsfim, Hachem, effectivement, dans sa colère, il les a complètement détruits. Et on voit que le Maaseh Nehenash, Nehenshu, pardon, Kemapechat Sodome Amora. Et donc, on sait bien que le clan Israël a été, enfin, le Eretz Israël a été battu, la terre de Yerushalayim, elle a été labourée, etc. A priori, ça contredit le passage ici, la Haftara. Parce que dans cette Haftara, c'est marqué qu'on l'a pas eu si Hachem ne nous avait pas laissé survivre. On méritait d'être complètement détruit. Mais de facto, on a été détruit. Alors, il faut dire ici que dans la destruction de Sodome, il y avait deux choses. Premièrement, il y a eu destruction des hommes, des êtres humains qui sont tous morts. Il n'y a pas il y a aucune trace de Sodome. Et deuxièmement, il y a une destruction du pays, de la terre. La terre a été brûlée. C'est marqué dans l'Ech Lecha, que Lot, quand il a choisi d'aller à Sodome, c'est marqué, Vaïssa Lot et Enav. Quand Avram a dit à Lot, tu sais, on ne peut pas continuer ensemble, il faut qu'on se sépare. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alors, c'est passé, Lot a levé les yeux et il a vu la région autour du Jourdain. Il a vu que c'était parfaitement bien irrigué. Et dans le passage, c'est marqué avant que Akadosh Baruch Hu détruise complètement Sodome et Amora. C'était comme que Gan Hashem, c'est comme un jardin d'Hashem. C'était aussi bien que l'Égypte, on parle du delta du Nil avec toute la richesse, etc. Et après que Sdom a été détruite, il n'y avait plus rien. On ne pouvait plus semer. Il n'y avait rien que. On ne pouvait pas ni passer la charrue, etc. Lo tizra ve lo titsmer. On ne peut pas semer, ça ne poussera pas. Donc on peut dire que par rapport à la destruction de la terre, effectivement, les Bnei Israël ont été détruits. Ça a été détruit, la terre, elle a été complètement détruite. Comme à Sdom. Et c'est ça, c'est de ça que parle le verset dans Nitzavim. Mais en ce qui concerne la destruction des hommes, des êtres humains, là, ça n'a pas été comme à Sdom. Hachem n'a pas détruit le clan d'Israël. Il n'a pas tué tous les hommes. À Sdom, tous les hommes ont été détruits aussi. Ce n'est pas le cas en Eretz Israël, c'est ça. Le Shérit, les Israël, comme dit le Malbim, il y a un reste, Shérit Israël. Shérit, c'est-à-dire le reste des Bnei Israël. Et ça fait partie des chassadim d'Hachem, partie de la générosité d'Hachem, comme c'est marqué dans le Passouk, de Mitzad Maaseihem, de par leurs actions, ils auraient mérité d'être détruits aussi. Si Hachem Tzvakot ne nous avait pas laissé un peu d'entre nous, quoi, qui allait permettre au clan d'Israël de survivre. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci. Yeah.